J'ai vraiment à cœur ce soir que ce soit le Seigneur lui-même qui vous accueille en ce manoir d'Youville par une de ses paroles. Et c'est cette parole que je voudrais vous donner de sa part, comme une parole de bienvenue. Elle se trouve dans le chapitre 14 de Jean, au verset 23e. C'est lui qui vous parle et qui vous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ne trouvez-vous pas que c'est merveilleux d'entendre le Seigneur nous adresser ces mots? Si quelqu'un m'aime, et je veux croire que parmi vous, beaucoup l'aiment, je voudrais dire, tous, ce soir, l'aiment. Je pense que vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas d'amour pour le Seigneur Jésus. Vous avez été motivés pour venir en ce lieu et je veux croire que vous êtes de ceux qui aimez le Seigneur. Alors, si vous l'aimez, le Seigneur vous dit que vous gardez aussi sa parole. Et qu'est-ce que cela veut dire, garder sa parole? Ça veut dire que si vous l'aimez, vous avez le désir de mettre cette parole en pratique. Dans la vie quotidienne, cette parole que vous connaissez, mais parce que vous aimez le Seigneur, vous désirez vivre de cette parole. Pas seulement quand vous êtes dans des heures où vous êtes rassemblés autour de la personne de Jésus, mais dans vos occupations journalières. Et alors, si vous êtes dans cet état d'aimer le Seigneur, je trouve que c'est fantastique d'entendre ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et je voudrais qu'en quittant ce lieu, vous sachiez individuellement ce que c'est qu'être aimé par ce Père des cieux. Être aimé du Père de Jésus-Christ. Et comment ce Père de Jésus-Christ peut nous aimer? Il n'a pas deux façons d'aimer. Nous savons que il nous aime comme il a aimé son propre Fils. Et ça, vous n'avez pas de peine à comprendre que le Père ait aimé son Fils. Eh bien, ce que nous voudrions que l'Esprit Saint vous fasse saisir ce soir, c'est qu'individuellement, vous devez réaliser que Dieu vous aime. Comme son Fils unique était aimé, c'est là l'amour que Dieu a pour vous. Le croyez-vous? Si quelqu'un l'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des phrases, ce n'est pas de la littérature, c'est la vérité. Et puis, le Seigneur ajoute, et nous viendrons à lui. Qui nous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la Trinité tout entière viendra faire sa demeure où? Au fond du ciel? Dans vos cœurs. Dans votre être tout entier. Voyez-vous, je crois que tout homme porte au fond de lui-même l'image de la Trinité. Une capacité d'aimer et d'être aimé. Quand on se laisse aimer par le Père, quand on se laisse vraiment racheter par le Fils, et c'est l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre, et quand on se laisse envahir par le Saint-Esprit, eh bien, on devient capable de mettre en pratique le grand commandement qui résume toute la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, je dirais même de tout ton corps. Aimer Dieu de tout notre être. Car Dieu nous appelle à devenir son temple. Et la divinité veut peupler notre être tout entier. L'apôtre Paul nous dit, comment est formé notre être? Un esprit, une âme et un corps. C'est là que je vois l'image de la Trinité en nous. Nous sommes esprit, âme et corps. Que votre esprit, dit l'apôtre Paul dans le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, verset 23, que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient entièrement sanctifiés, mis à part pour la divinité. Père, Fils et Saint-Esprit, comme je le dis souvent, le Dieu tout entier, dans l'homme tout entier. Eh bien, je veux croire que nous allons réaliser cela dans ces journées. Nous allons le lui demander. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons parce que ce soir, nous avons été accueillis par ton propre Fils qui nous a dit ces paroles qui ne peuvent être que la vérité, le reflet de ta pensée. Et nous voulons te demander que nos cœurs, dès ces premiers instants, soient ouverts pour recevoir les grâces abondantes que tu nous réserves dans ces journées. Et que nous puissions repartir de ce lieu fortifiés, encouragés, pleins de foi, d'espérance et surtout d'amour. Pour que nous puissions mettre en pratique d'une façon visible ce premier commandement qui devient visible par l'accomplissement du second, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout cela, nous te le demandons dans la certitude de l'exaucement, dans le nom béni de ton Fils, bien-aimé à qui tu ne refuses rien. Amen. Le thème général de nos retraites Mahanaïm en ce lieu a été annoncé pour cette année sous ce titre « Un message trinitaire ». Mais ne voulant pas nous limiter à des exposés sur des formules trinitaires que nous trouvons dans les Écritures, nous avons été conduits à présenter notre sujet en trois volets, appuyés chaque fois par l'étude d'une épître démontrant l'authenticité de la Trinité. Ainsi, en mars dernier, notre premier volet était le Père de gloire, ou l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 1, verset 17, Dieu est appelé le Père de gloire. Et notre dernière retraite, fin octobre, début novembre, nous a conduit à survoler la première épître aux Corinthiens pour présenter notre deuxième volet sur le Seigneur de gloire. Le Fils unique est appelé dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, le Seigneur de gloire. Et alors, dès ce soir, eh bien, nous allons aborder notre troisième volet. Nous vous proposons l'étude de la première épître de Pierre, dans laquelle est mentionnée cette expression que je trouve tellement remarquable, l'esprit de gloire. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous aurons vu que comme Dieu est appelé le Père de gloire, le Fils, le Seigneur Jésus, est considéré lui aussi comme le Seigneur de gloire, Paul employant le même qualificatif que pour le Père, émettant implicitement Jésus au même rang que son Père. Comme Dieu est appelé Père de gloire, Jésus est appelé Seigneur de gloire. C'est la même expression qui est employée pour le Fils. Et enfin, l'apôtre Pierre ne fait pas autre chose avec le Saint-Esprit qu'il appelle l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Et je dirais que si nous tenons à souligner que le message biblique est un message trinitaire, c'est parce qu'aujourd'hui, cette vérité est battue en brèche dans beaucoup de milieux. Et j'irais même jusqu'à dire que dans certains milieux évangéliques, on n'aime pas ce mot trinitaire, parce que soi-disant, on ne le trouve pas dans la Bible. C'est vrai qu'on ne trouve pas ce mot dans la Bible, mais ce que ce mot représente, signifie, est une vérité vraiment biblique. Et vous savez que ceux qui nient la Trinité sont des gens très actifs. Je ne parle pas simplement des unitariens, de l'Église unitarienne, mais je pense spécialement à quel groupe qui fait pas mal de ravages dans notre Québec, c'est les Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah nient la divinité essentielle de Jésus-Christ. Et je dirais simplement ici que Jésus-Christ a dit lui-même que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. Jean 5, verset 23e. Ce n'est pas pour dire du mal des Témoins de Jéhovah. Nous admirons leur zèle, dans un certain sens. Mais quand on touche à la personne de notre Seigneur et à sa gloire, eh bien, c'est à Dieu lui-même que l'on s'attaque. Alors, quand on parle de la Trinité, mot qui ne se trouve pas dans la Bible, c'est vrai, il faut alors démontrer par les textes de l'Écriture deux choses. Premièrement, il faut démontrer la divinité essentielle du Fils et du Saint-Esprit, parce que celle du Père, elle va de soi. On ne parle pas de la divinité essentielle du Père, ça va de soi. Mais si vous gardez cette vérité de la Trinité, vous devez pouvoir démontrer la divinité essentielle de Jésus et la divinité essentielle aussi du Saint-Esprit. Et puis, deuxième chose, nous devons démontrer le fait que les trois personnes réunies, Père, Fils et Saint-Esprit, forment un seul Dieu et non pas trois dieux. Vous ne devez plus être de ceux qui pensent encore que les chrétiens ont trois dieux. Nous avons un Dieu unique. Et il faut être bien solide sur cette pensée. Nous croyons en un Dieu unique, béni soit-il. Mais ce Dieu unique se révèle dans les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je ne prétends pas donner de meilleures définitions de la Trinité que l'ont fait les conciles ecclésiastiques. Et nous ne disons pas non plus que nous pouvons parfaitement comprendre comment il se fait que le Dieu unique se manifeste en trois personnes. Alors, quelle attitude devons-nous prendre devant ces faits, puisque nous les croyons? Il n'y a qu'une attitude, c'est l'adoration. L'adoration. Nous adorons le Dieu unique, mais qui se manifeste en trois personnes. Nous ne prétendons pas pouvoir expliquer la Trinité. Pourtant, au cours de toute l'histoire de l'Église, on a cherché à donner des explications, alors que je crois qu'il est plus sage d'entrer dans l'adoration et de nous souvenir qu'en Dieu, nous avons un Père, qu'en Dieu, nous avons un Sauveur qui nous a rachetés, et qu'en Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui manifeste sa présence en nos vies. Mais au cours des siècles, il y a eu des hommes qui ont évangélisé le monde, et je pense à Patrick, qui est l'homme qui a apporté l'évangile dans quel pays? En Irlande, hein? Alors, on raconte qu'un jour, il avait les païens devant lui, et il voulait leur parler de la Trinité. Et tout à coup, en baissant les yeux, quelquefois c'est en baissant les yeux que l'on trouve un exemple, il a vu un trèfle. Alors il a pris le trèfle et il leur a montré. Il a dit, comme vous voyez que j'ai dans la main un trèfle, mais que dans ce trèfle il y a trois lobes distincts, ainsi en Dieu, il y a un seul Dieu, mais trois personnes en Dieu. Alors, l'image du trèfle est devenue le symbole, un des symboles de la Trinité. Maintenant, une histoire qui est vraie, qui s'est passée, c'est celle de saint Augustin qui, méditant au bord de la mer, sur un sermon qu'il devait faire, lui qui était évêque d'Hippone, il se demandait comment faire comprendre au peuple cette vérité si profonde de la Trinité. Et alors, vous connaissez peut-être le récit, il a eu comme une vision. Il était au bord de la mer, il a vu un enfant, mais cet enfant serait un ange, et il avait un enfant qui avait fait un trou dans le sable, et qui, avec un coquillage, allait prendre l'eau de la mer et faisait la navette. Il remplissait le petit trou qu'il avait fait avec l'eau de la mer. Et Augustin lui dit, mais mon enfant, que fais-tu là? Et il dit, bien, j'essaye de mettre la mer dans mon petit trou. Il dit, mais mon enfant, est-ce que tu ne comprends pas que la mer est trop grande et que ton trou est trop petit? Et alors là, il a compris que c'était Dieu qui lui parlait et qui lui disait, c'est une vérité que tu ne peux pas expliquer à d'autres. Et dis-leur qu'en Dieu, il y a un Père, et tu peux leur parler du Père, qu'en Dieu, il y a le Fils qui est le Sauveur, et qu'en Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous manifeste sa présence. On a pris aussi l'image du soleil. Le soleil qui se compose d'un foyer qui est inaccessible. Le foyer, ce serait Dieu le Père. La lumière, qui est le rayon qui vient jusqu'à nous, ce serait Dieu le Fils. Et puis la chaleur que nous ressentons, qui nous est communiquée, ce serait Dieu le Saint-Esprit. Mais toutes ces images sont imparfaites, bien sûr, parce que nous nous trouvons devant un mystère qui est un mystère adorable. Et un mystère reste quand même un mystère. On a pris une image aussi géométrique pour parler de la Trinité. Qu'est-ce qu'on fait comme un triangle équilatéral, n'est-ce pas? Les trois côtés sont égaux, il y a trois côtés, mais il n'y a qu'un triangle. Bien, tout cela sont des balbutiements, mais ce qui compte, c'est de connaître vraiment ce Dieu unique, mais révélé dans ces trois personnes. Alors, nous abordons maintenant notre première épître de Pierre. Alors, nous allons aborder maintenant cette première épître de Pierre. Et ce soir, dans mon introduction, je me bornerai à un bref rappel au sujet de l'auteur de cette épître, dont nous étudierons demain matin le chapitre premier. Samedi après-midi, donc demain après-midi, le chapitre deuxième. Samedi soir, le chapitre troisième. Dimanche matin, le chapitre quatrième. Et si nous arrivons à dimanche après-midi, nous étudierons ensemble le chapitre cinquième avant de terminer par le culte d'adoration avec le repas du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre maintenant nos Bibles, notre Nouveau Testament, et nous allons faire ensemble la lecture cursive, c'est-à-dire rapide, de cet épître. Comme ça, tous auront une connaissance du texte que nous allons étudier. C'est un des secrets pour avancer dans la connaissance spirituelle, c'est de lire et de relire les passages que nous étudions. Vous avez tous votre texte sous les yeux ? De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, vous avez été choisis conformément au plan établi d'avance par Dieu le Père, et vous lui appartenez grâce à son esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante et pouvons nous réjouir de l'héritage que Dieu réserve aux siens. C'est un héritage qui ne peut ni se gâter, ni se salir, ni perdre son éclat. Dieu le réserve dans les cieux pour vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. Et ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Au sujet de ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait vous faire. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet Esprit qui était en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir, et la gloire qui les suivrait. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message, vous l'avez reçu maintenant. Les prédicateurs de la bonne nouvelle, qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, vous l'ont annoncé, et les anges eux-mêmes aimeraient le connaître. C'est pourquoi tenez votre esprit prêt à l'action. Demeurez bien éveillé et mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant, mais soyez dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu et qui juge tous les hommes de la même façon, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la création du monde, et il a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ramené de la mort à la vie et lui a donné la gloire, Ainsi, votre foi et votre espérance sont dirigées vers Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement vos frères en la foi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Comme l'Écriture le déclare, tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole est celle que la bonne nouvelle vous a apportée. Et puis, nous arrivons au chapitre 2. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et soyez sauvés. En effet, comme le déclare l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, qui l'a jugée précieuse. Approchez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que déclare l'Écriture. J'ai choisi une pierre de valeur que je pose maintenant comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et d'ailleurs, il est dit encore, c'est la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber. Ils ont trébuché parce qu'ils ont refusé de croire à la parole. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous ne connaissiez pas la pitié de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Je vous le demande, mes amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des désirs humains qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité humaine, à l'empereur, qui a le pouvoir suprême, et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par le bien que vous pratiquez. Conduisez-vous en hommes libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les hommes. Aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respecter l'empereur. Qui était l'empereur ce temps-là? Néron. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont durs. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous les supportez, c'est un bien devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. Nous demandons à Dieu que nos cœurs soient touchés par cette lecture. Nous la continuons. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre conduite. Vous n'aurez pas besoin de prononcer une parole, car ils verront combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux et les bijoux d'or ou les beaux vêtements que vous pourriez porter, mais que votre beauté soit celle de votre être intérieur, qu'elle soit la beauté impérissable d'un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que les femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu se rendaient belles. Elles étaient soumises à leur mari. Telle était Sarah. Elle obéissait à Abraham et l'appelait « mon maître ». Vous êtes maintenant ses filles si vous faites le bien et si vous ne vous laissez effrayer par rien. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous donner à vous-même quand il vous a appelé. Comme l'Écriture le déclare, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit cesser de dire du mal et de mentir. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes, prêts à écouter leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? Même si vous avez à souffrir parce que vous accomplissez ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des hommes et ne vous laissez pas troubler, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que, lorsque l'on vous accuse, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, inspirés par le Christ, soient honteux de leurs paroles. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort pour vous. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes. Lui qui était bon, il est mort pour des méchants, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par cet esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire aux esprits de ceux qui, autrefois, ont désobéi à Dieu quand il attendait avec patience durant les jours où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvées par l'eau. Cette eau était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience pure. Le baptême vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Puis nous arrivons au chapitre 4. Puisque le Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous aussi dans la même disposition d'esprit. Car celui qui supporte des souffrances physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois un temps suffisamment long à agir comme les païens aiment à le faire. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leur acte à Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts, à ceux qui ont été jugés dans leur existence humaine, comme le sont tous les hommes. Elle leur a été annoncée afin que, par l'Esprit, ils puissent vivre comme Dieu vit. La fin de toute chose est proche. Vivez d'une manière raisonnable et ayez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns et les autres, car l'amour efface un grand nombre de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans mauvaise humeur, que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Celui qui prêche doit transmettre les paroles de Dieu. Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Mes amis, ne vous étonnez pas de la dure épreuve que vous avez à subir, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis de joie quand la gloire, sa gloire sera révélée. Vous êtes heureux si l'on vous insulte, parce que vous êtes disciples du Christ. Car l'Esprit glorieux, ou l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé en premier lieu. Or, si le jugement débute par nous, comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si les bons, les rejets habitera ou l'alakra, les rejets. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, les aînés, à pratiquer le bien, et ce qui à ceux qui parmi vous sont. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ. Voici ce que je leur demande. Prenez soin, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis aux hommes plus âgés, et vous tous, revêtez-vous d'humilité pour vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez ferme dans la foi et résistez-lui, car vous savez que vos frères répandus dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle, dans l'union avec le Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris cette courte lettre avec l'aide de Silas, que je considère comme un frère fidèle. Je désire vous encourager et vous assurer que telle est la véritable grâce de Dieu. Demeurez ferme en elle. L'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie comme vous, vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection fraternelle. Que la paix soit avec vous, vous tous qui appartenez au Christ. Et voilà, mes amis, nous avons lu 5 chapitres, combien de versets? 105. C'était long, hein? Vous êtes fatigués? Bien, je veux croire que cette première approche du texte biblique va vous aider. On a couvert donc rapidement cet épître. On sait ce que contient maintenant cet épître. Alors, je voudrais brièvement vous parler de cet auteur de cette lettre. Pour apprendre quelque chose de Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il faut lire? Où est-ce que vous allez trouver vos renseignements sur Pierre? Il faut lire les évangiles. Combien avons-nous d'évangiles? On en a quatre. Alors, il faut lire les quatre évangiles. Et puis, quel livre ensuite, pour savoir un peu qui est Pierre? Il faut lire les Actes. Les 15 premiers chapitres des Actes qui nous parlent de Pierre. Et je dirais encore qu'il faudrait lire deux chapitres dans les épîtres de Paul et puis alors les épîtres de Pierre qui sont attribués à Pierre pour apprendre un peu à connaître cet auteur. Hein. Alors, cette lecture nous fait découvrir trois étapes dans la vie de Pierre. Les évangiles nous font connaître son origine, son métier, son caractère, sa vocation et les années qu'il a passées à l'école de qui? De Jésus, dont il était devenu le disciple. Puis, les Actes, alors, nous renseignent sur la deuxième période de la vie de Pierre, qui va de la résurrection de Jésus et de son ascension à l'établissement de l'Église de Jérusalem dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'où? Jusqu'à Césarée maritime chez le païen Corneille. Puis alors, vous avez une troisième période, ces épîtres qui nous font connaître le travail de ce serviteur qui nous montre le souci qu'il avait pour ces églises de la province romaine auxquelles il adresse cette lettre. Et qui avait fondé ces églises de ces saintes provinces romaines? C'était Paul. Et Pierre, lui, a à cœur d'aider les églises que Paul a fondées. Il ne se lave pas les mains en disant « moi, ça ne me regarde pas ». Non. Mais pour quelle raison est-ce qu'il a tellement à cœur ces églises qui ont été fondées par l'apôtre Paul? C'est que Paul est où, lui? Il est en prison. Et certainement que l'apôtre Pierre a eu très à cœur de visiter ces églises que Paul avait fondées. Il avait été l'instrument de Dieu pour fonder ces églises. Mais Paul, maintenant, était en prison. Il a été en prison d'abord à Césarée, puis ensuite à Rome, où il est mort. Alors, Pierre a à cœur, à la fin de son ministère aussi, d'écrire à ces églises pour les fortifier dans la foi. Et nous voyons que Pierre lui-même avait pour l'apôtre Paul des sentiments plus que bienveillants, mais pleins d'admiration. Nous l'avons dans le chapitre 3 de sa deuxième lettre. Il recommande à tous ceux auxquels il écrit les épîtres de Paul, tout en leur disant: il y a des choses qui sont des fois difficiles à comprendre dans ce que Paul écrit, et certains tordent les Écritures, mais il leur recommande les lettres de Paul. Alors, rappelons maintenant ce qu'était cet apôtre Pierre. Il était originaire, quand vous lisez les évangiles, vous prenez les premières pages de l'évangile, il était originaire de quelle ville? De Bethsaïda. Comme Philippe. Vous avez ça dans Jean 1, versets 45. Et il habitait après, une fois marié, parce que Pierre était marié, il habitait avec sa femme dans quelle autre ville? À Capernaum, où il avait une maison, au bord du lac de Galilée. Donc, il est originaire de Bethsaïda, mais il habite maintenant, enfin, il habitait avec sa femme à Capernaum. Vous avez tout cela dans les évangiles, je ne vais pas vous dire tous les textes. Et quel était son métier? Il était pêcheur, comme son frère André. Et qu'est-ce qu'il attendait, au fond, avec son frère? Il était de ceux qui attendaient ce qu'on appelait la consolation d'Israël. Et qu'est-ce que c'était la consolation d'Israël? Qu'est-ce que le peuple juif pieux attendait? Le Messie. C'était des gens qui vivaient dans une grande espérance. Ils espéraient être de ceux qui verraient le Messie. C'était là toute leur espérance. Et alors, le temps où vivait Pierre était le temps où apparut qui pouvait commencer de soulever leur espérance, c'était Jean-Baptiste. On parlait d'un homme qui s'appelait Jean le baptiseur et qui se trouvait au bord du Jourdain. Et alors André, le frère de Pierre, était allé écouter Jean-Baptiste. Et certainement qu'il rapportait à son frère Pierre les choses que Jean-Baptiste disait, qu'il était celui qui préparait le chemin du Seigneur. Mais que le temps était accompli, et Jean-Baptiste disait même, il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Il disait qu'il était vivant. Le Messie, il est déjà là, en quelque sorte. Il est vivant, il est dans le pays, mais vous ne le connaissez pas. Il y avait 30 ans que le Messie était là. Mais qui le savait? À Nazareth même, on ne reconnaissait pas Jésus comme étant le Messie, et Jésus ne s'était pas déclaré. Il vivait comme un simple homme, le charpentier de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph. Mais vous voyez, pendant 30 ans, il était déjà là. Alors tout à coup, voilà un homme qui, semblable aux prophètes de l'Ancien Testament, revêtu d'un vêtement de poil de chameau, eh bien, commençait à crier, le temps est accompli. Repentez-vous, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Puis un jour, Jésus est apparu à Jean et est venu au bord du Jourdain, alors qu'André se trouvait là avec Jean, qui était aussi un pêcheur, fils de Zébédée, un patron de pêche de ce lac de Galilée. Et ces deux disciples ont entendu le témoignage du Baptiste. Vous vous rendez compte que tout à coup, Jean-Baptiste, illuminé, montre quelqu'un. Et il dit, c'est lui. Voilà. Jusque-là, il avait annoncé la venue d'un plus grand que lui, dont il n'était pas digne de délier la croix de ses sandales. Puis tout d'un coup, un jour, comme tous les autres, alors qu'il prêchait que des foules venaient de Jérusalem et de partout pour être baptisées, manifestant leur repentir, il dit, le voilà. Il est là. Rendez-vous compte que ça devait être? Il est là, c'est lui. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et puis le lendemain, enfin les gens étaient certainement bouleversés, le lendemain, Jésus, passant de nouveau là, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alors, André, le frère de Pierre, de Simon, et Jean ont suivi Jésus, qui s'en allait. Et Jésus s'est retourné, et il leur a dit, mais que cherchez-vous? Et quelle a été la réponse? Où demeures-tu? Venez et voyez. Et il est dit que ces deux personnes, ces deux disciples, les disciples de Jean, donc André et Jean, ont passé la journée avec Jésus. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dû apprendre? vivre un jour avec le Seigneur dans ce temps-là? Où les a-t-il conduits? Où demeurait-il Jésus, au fond? Qu'est-ce qu'il a dit? Il demeurait où? Dans le sein du Père. Et pour moi, Jésus a conduit ses deux disciples dans le sein de son Père. Parce que c'est ça qu'il fait. Quand on est en contact avec Jésus, il nous parle de son Père. Il nous révèle le Père. Et alors c'est ça qui est fantastique. Le Père lui-même vous aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ils ont connu certainement l'amour du Père par son Fils. Ils ont été placés déjà avant un temps dans ces aimables demeures de la maison du Père. Et alors, ils sont repartis. Mais alors, avec quel message? Qu'a fait André? Ils disent, oh, mais moi, je garde ça pour moi. Non. La première chose qu'André a fait, c'est de dire cela à qui? À son frère. Je pense à cette expression qu'on dit du grec, hein, Eureka, j'ai trouvé. C'est ce qu'il dit. Nous avons trouvé le Messie. Celui que tu attends, celui que tu espères, Simon. Mais il est là. Et c'est vrai ce que le Baptiste disait. Nous l'avons vu, et non seulement nous l'avons vu, mais nous avons été avec lui. Nous avons passé une journée avec lui. Et alors, que fera André? Eh bien, il amènera son frère à qui? À Jésus. Et nous avons toutes sortes de leçons à tirer de cela. Quand on a vraiment eu un contact personnel avec le Seigneur, on désire partager ce qu'il nous a donné et amener au Seigneur. Ce n'est pas nous qui pouvons convaincre les hommes, mais les amener au Seigneur. Nous avons trouvé le Messie. L'espérance que tu as, mais elle est là maintenant. C'est une réalité, il est là. Vous avez tout cela dans le premier chapitre de Jean. Et alors moi j'aime beaucoup évoquer cette rencontre de Simon, qui suit son frère, il croit ce que son frère lui dit, il l'amène à Jésus. Et quand Simon se trouve devant Jésus, il découvre qu'il est devant un être qui sait tout de lui. Tout de son présent, tout de son passé et tout de son avenir. Et c'est ce qui arrive quand on a vraiment été en contact avec Jésus. On sait que quelqu'un nous connaît entièrement. Jésus lui dit, tu es Simon. Ça c'est son présent. Hein. Tu es Simon. Mais il lui dit ensuite, le fils de Jonas. Ça c'est son passé. Tu seras appelé Céphas. C'est-à-dire Pierre. Voilà ce que tu deviendras. Donc il s'est trouvé en présence de quelqu'un qui savait tout de lui. Présent, passé, futur. Est-ce que vous avez cette pensée que le Seigneur vous connaît? Il connaît ton présent. Moi je ne sais pas quel est votre présent. Mais le Seigneur le sait. Tu es Simon. Il peut vous appeler par vos noms. Il sait aussi votre passé, votre hérédité. On parle toujours de l'hérédité, mais ce n'est plus un problème quand on est au Seigneur. Notre hérédité, il la connaît, et il est plus fort que notre hérédité. Tu es le fils de Jonas, tu es le fils de... Moi, je ne sais pas comment vous êtes entré dans ce monde, mais enfin, le Seigneur connaît qui est votre père. Même si vous ne connaissiez pas votre père, lui sait qui est votre père. Tu es le fils de chemin. Mais ce que tu seras, est-ce que ça vous intéresserait de savoir ce qui va vous arriver? Eh bien, on peut vous dire que ce qui va vous arriver, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà ce que tu seras. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur. Tu dois avoir un contact avec lui pour savoir ce qui va t'arriver. Tu seras, c'est ça. Tu seras Pierre, tu seras un roc, tu seras un rocher, toi, Simon, tu deviendras un rocher. C'est quelque chose, hein? Mais ce qui me frappe, c'est que Jésus les a laissés retourner à l'heure. Il n'y a pas de pression charnelle. Jésus n'a pas dit, maintenant tu dois te décider tout de suite et me suivre. Pas du tout. Ce n'est pas les méthodes évangéliques, ce n'est pas les méthodes de Jésus, là, de faire prendre une décision brutale. Tu dois, maintenant que je t'ai dit qui tu étais, tu dois prendre la décision de me suivre. Non, il le laisse retourner à ses occupations. Et voilà, Pierre, à quoi pense-t-il maintenant qu'il est pêcheur, qu'il est de nouveau à sa pêche? Il pense certainement à sa rencontre. Et la preuve qu'il a cru en lui, elle va lui être donnée. Il va pouvoir manifester qu'il a la foi. Mais ça n'a pas été dans l'immédiat que Jésus lui a demandé de prouver sa foi. Par une obéissance. Un jour qu'il était à son travail, à sa pêche. Vous savez, quand Jésus a commencé une œuvre dans un cœur, il la poursuit. Mais il ne vous violente pas. Ce n'est pas le viol des âmes, comme nous pratiquons aussi souvent. Nous violons les âmes, parce que nous les voulons tout de suite pour Jésus. Et ce n'est pas nous qui pouvons faire l'œuvre. Il est retourné à sa pêche. Mais voilà qu'un jour. Quand c'est le jour du Seigneur, le jour de Dieu, il y a un homme qui passe sur le bord de la mer. Pierre est en train de raccommoder ses filets, il le voit. Alors il n'a plus de regard que pour lui. Et il entend la voix de Jésus qui lui dit, ainsi qu'à André, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais vous voyez, il y a eu un temps. Le temps de Dieu, mais l'heure vient où il y a l'appel. Et c'est un vrai appel. Et alors là, il n'y a pas de complications. Hein. Immédiatement, il est dit, ils quittèrent tout et le suivirent. C'est beau cela, hein. Mais parce que c'est l'heure, parce que c'est mûr, et maintenant ils savent ce qu'ils font, ils quittent tout pour suivre Jésus. Ils ont eu le temps de méditer. Jésus n'a pas pensé, je m'en vais les perdre s'ils ne prennent pas une décision immédiate. C'est pas ça, mais nous avons tellement peu de foi, nous les prédicateurs, que nous voulons tout de suite voir quelque chose. Eh bien, le Seigneur passe et il les appelle. Alors il quitte tout. C'est cela, l'obéissance, c'est vraiment la manifestation de la foi. Et alors que fait Pierre, maintenant qu'il est avec Jésus? La première chose qu'il fait, c'est de l'amener où? Dans sa maison. Et j'aime beaucoup cela, j'ai médité déjà il y a bien des années sur cela, je vous en donne un tout petit résumé sur ces méditations de la vie de l'apôtre Pierre. La première chose que Pierre fait, il l'amène dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques troubles dans sa maison, il y a une belle-mère. Vous la connaissez, la belle-mère? Il y a une belle-mère dans la maison. Et puis voilà qu'elle a de la fièvre. Alors, quand Pierre veut parler à la belle-mère, je pense qu'il fait monter la fièvre. Simon parlant à sa belle-mère, la fièvre monte. Alors, il cesse de vouloir parler à la belle-mère. Et il parle de la belle-mère à qui? À Jésus. Est-ce que ça vous arrive? N'essayez plus, vous, de parler. Parce que vous faites monter la fièvre des autres. Mais parlez de l'âme qui vous est chère, parlez-en à Jésus. Et Jésus s'approche de la belle-mère, la touche. Et la fièvre tombe. Quand c'est Jésus qui touche. Hein. Mais quand nous voulons faire le travail, nous faisons monter la fièvre. Ça, vous pouvez être sûr. Ça ne va pas. Faites confiance au Seigneur. Dites au Seigneur ce qui ne va pas. Et lui s'approchera de la personne. Et la touche. Et alors, immédiatement, la belle-mère sert le Seigneur. Elle se leva pour les servir. C'est une chose qui est très remarquable, n'est-ce pas? Pierre amène Jésus dans sa maison. Jésus opère d'abord
dans son foyer. Puis ensuite, nous voyons que Jésus lui conduit Pierre dans la maison des autres. Enfin, c'est toujours Simon. Il prend Simon, et puis Jacques et Jean, et il les conduit dans la maison, par exemple, de Jaïrus. Et dans la maison de Jaïrus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite fille qui vient de mourir. Dans la maison des autres, il y a un mort. Alors, nous ne pouvons rien faire dans la maison des autres. Mais nous pouvons accompagner le Seigneur en étant dans le silence. Et je pense que Pierre a pris une leçon extraordinaire quand il a vu Jésus prendre la main de cette petite fille et lui dire « Talita Kumi, jeune fille, lève-toi ». Je pense que là, Pierre a une telle vision qui lui est restée. Comment est-ce que je peux dire cela? Que cette vision de Jésus prenant la main de cette petite fille et lui disant « Talita Kumi, jeune fille, lève-toi ». Comment est-ce que je peux dire que cette vision lui est restée? Parce qu'il a fait la même chose avec Dorcas, hein, plus tard. Quand plus tard que Jésus était au ciel et qu'il a été demandé pour aller dans la maison où Dorcas venait de mourir, eh bien vous le voyez qui agit de la même manière. Il faut d'abord l'avoir contemplé, dans le silence, l'avoir entendu, l'avoir vu agir, pour agir comme lui a agi, et avoir un même résultat. Il a eu le même résultat. Dorcas a été sauvé de la mort. Mais continuons de voir Pierre à l'école de Jésus. Pierre est toujours pêcheur quand même. Il n'a pas abandonné sa femme. Il voyage avec Jésus, mais il retourne encore dans son lieu et il a sa barque. Mais alors, maintenant qu'il a sa barque, un jour qu'il y a une foule immense qui est venue pour écouter Jésus, Jésus étant empressé par la foule, demande à Pierre de pouvoir monter dans sa barque. Mais quand on est au Seigneur, quand on est à l'école de Jésus, on met tout à sa disposition. C'est une des premières leçons que nous donne Simon. Il a mis à la disposition de Jésus sa barque. Et on voit Jésus enseigner de la barque. La chair de Jésus, c'est la barque de Pierre. Et il enseigne, comme ça il n'est pas bousculé, il enseigne toute cette foule qui est là sur le rivage. Puis quand il a eu fini, parce qu'à un moment où on a fini d'enseigner, eh bien, il dit à Pierre, mène en pleine eau. Et Pierre lui dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, parce que vous voyez, ils travaillaient quand même, parce qu'il fallait subvenir à leurs besoins. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Alors il peut penser, Jésus c'est un charpentier, hein. Moi je suis un pêcheur, alors mène en pleine eau. Seigneur n'est pas un pêcheur, mais il dit, toutefois, puisque c'est toi qui le dis, sur ta parole, j'irai. Et il obéit, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons cette obéissance, même si ça nous paraît incertain? Nous devons obéir. Et puis c'est la pêche miraculeuse. Pierre croyait qu'il savait bien travailler. Hein. Eh bien voilà. Seigneur, c'est mieux travailler que lui. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Pierre, tu ne sais pas travailler. Mais agis selon ma parole. Et alors, c'est la pêche miraculeuse. Alors, quand Pierre voit ça, il tombe aux pieds du Seigneur, puis il dit, retire-toi de moi, je suis un pêcheur. Devant la puissance de ce miracle, parce qu'il voit bien que c'est un miracle, hein, cette pêche si abondante, eh bien, il reconnaît sa faillite. Puis, un jour, ils sont en train de marcher, il y a une foule immense qui presse le Seigneur, et il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui avait été chez tous les médecins et qui souffrait d'un mal vraiment incurable, aucun des médecins n'avait pu la guérir, Puis elle avait dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Elle l'a touché. Puis Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? La femme ne veut pas se déclarer tout de suite. Alors Pierre, qui a tout de suite les réponses, il lui dit, mais Seigneur, tout le monde te presse et tu dis qui m'a touché. Il dit, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais Pierre ne se rend pas compte de la sensibilité du Seigneur. Le Seigneur dit, une puissance est sortie de moi. Est-ce que nous l'avons touché de ce contact? De ce contact vraiment spirituel? Pierre n'a pas réalisé cela. Mais il va s'en souvenir. Il va s'en souvenir. Et ce sera tellement beau que dans son ministère, il n'aura pas même besoin de toucher des âmes. Qu'est-ce qui se passera dans son ministère à Pierre? Quand son ombre passait sur les malades étaient guéris. C'est quand même formidable. Mais c'est des leçons qu'il a apprises dans cette vie avec Jésus. L'ombre de Pierre pouvait guérir. Là, c'était le contact de la foi de cette femme qui a été rétabli en un instant. Mais il continue de faire des expériences avec Jésus. Un jour, ils sont sur la mer et il y a la grande tempête. Et ils pensent qu'ils vont périr. Et tout à coup, Jésus marche sur les eaux. Et ils le prennent pour quoi? Pour un fantôme. Et alors, Pierre entend la voix de Jésus qui dit, c'est moi, n'ayez point de peur. Alors, il n'est pas très sûr encore. Il dit, mais si c'est toi, Seigneur, commande-moi d'aller vers toi. Alors, il dit, viens. Et Pierre commence à marcher sur les eaux. Et il a marché sur les eaux. Mais tout à coup, au lieu de regarder le Seigneur, il regarde les vagues, il entend le vent et il enfonce. Pierre ne sait pas marcher sur les eaux. Alors, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur tend la main. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Et voilà notre Pierre. Mais à l'école de Jésus, bien notre foi va grandir. Mais les débuts de Pierre sont des débuts assez catastrophiques. Il enfonce dans l'eau comme s'il oublie que le Seigneur ne peut le sortir de toute difficulté. Puis une autre fois, il écoute les paraboles de Jésus, et puis il lui demande les explications sur ces paraboles, il ne comprend pas. Et Jésus lui dit, mais vous aussi, vous êtes sans intelligence? Ça ne vous encourage pas? On trouve qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais moi je ne comprends pas. Et vous aussi, vous êtes sans intelligence? L'apôtre Pierre a entendu cette parole de Jésus, il l'a acceptée. Mais il va nous rendre intelligents. Mais questionnons, faisons comme Pierre. Puis vous pouvez continuer. Un jour, quand Jésus a dit, mais qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est Pierre qui a répondu. Hein. Qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus lui dit, bien tu sais, Pierre, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu n'as pas trouvé cela tout seul que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père qui te l'a révélé. Tu es devenu le canal pour confesser la foi en moi. Parce que le même homme, quelques instants après, quand Jésus leur parle de sa mort qu'il va souffrir à Jérusalem, Pierre prend Jésus à part et dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais des hommes. Alors, qu'est-ce que Pierre apprend? Qu'il n'est pas capable de penser de lui-même. Ou bien il est le canal de Dieu, quand il dit une vérité, c'est Dieu qui parle en lui, ou bien il est le canal de Satan. Quand il juge des choses comme les hommes les jugent. Il n'y a que deux sources d'inspiration.
ou bien on est l'instrument de Dieu, ou l'on peut devenir l'instrument du diable. Mais le même homme, en peu de temps, peut être ou l'instrument de Dieu, ou l'instrument de Satan. Alors, nous devons veiller sur nos pensées, parce que nous ne savons pas penser justement de nous-mêmes. Puis à la transfiguration, quand Jésus est sur la montagne et que il parle avec Moïse et Élie, c'est quelque chose de tellement beau, mais Pierre veut dire quelque chose. Et il a dit qu'il ne savait que dire. Quand on ne sait que dire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se taire. Mais on veut parler, hein. On veut toujours parler. Et il est pourtant dit que Pierre ne savait que dire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Une bêtise. Faisons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alors que le Seigneur allait tous les couvrir par la nuée de gloire. Parce que s'ils faisaient trois tentes, ça faisait des séparations. C'était pas limité. Le Seigneur allait les couvrir tous sous la nuée glorieuse. Donc il ne s'est pas parlé de lui-même. Et puis, quand Jésus, on lui demande de payer son impôt, Pierre aussi devrait payer. Et il n'a rien. Alors Jésus lui dit, va, tu trouveras un poisson dans la mer, tu trouveras dans sa bouche un statère, donne-le-leur pour moi et pour toi. Pierre ne sait pas payer, mais Jésus payera pour lui. C'est ce qu'il a appris. Est-ce que nous avons appris ces leçons? Que quand on est au Seigneur, c'est lui qui paye aussi pour nous. Il prend soin de nous matériellement, même aussi pour les impôts, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes. Mais alors Pierre pense qu'il sait pardonner. Alors il dit au Seigneur, Seigneur, combien toi pardonnerais-je à mon frère? Sera jusqu'à cette fois? Non pas cette fois, 70 fois, cette fois. Pierre non plus ne sait pas pardonner. Puis quand Jésus, le dernier soir, lui lave les pieds, qu'il va de l'un à l'autre, Pierre dit, mais Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre perd toute notion, puis il dit, ben lave-moi aussi la tête, etc. N'est-ce pas? Et Jésus lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Bien souvent, nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Ça vous arrive? Mais tu le sauras dans la suite. Alors faisons confiance au Seigneur, laissons-nous faire par le Seigneur. C'est ça son école. Puis alors Pierre maintenant fait des promesses extraordinaires au Seigneur. Il dit quand même tous s'abandonneraient, parce que Jésus a annoncé ça, ce qui allait lui arriver, quand même tous s'abandonneraient. Moi je ne t'abandonnerai pas. Il a jugé tout le monde, il a jugé tous ses collègues. Moi je ne t'abandonnerai pas. Puis Jésus lui dit, mais Pierre, le coq n'aura pas chanté deux fois que toi tu m'auras renié. Trois fois. Pierre pense que c'est pas possible, mais Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Voilà les bonnes intentions que nous avons. Et puis, quand ils sont à Gethsémani, et que Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, priez pour moi, je suis angoissé. Et il se retire un jet de pierre et il est là dans la prière, abîmé dans la prière. Quand il dit, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il retourne vers Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'il les trouve? Il les trouve endormis. Alors il dit à Pierre, Pierre, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure avec moi? Vous voyez, c'est bien ce que nous sommes. Nous avons toutes sortes de bonnes intentions, puis nous ne sommes pas capables. Nous coulons. Mais alors voilà, Jésus leur dit, bien maintenant, levez-vous, celui qui me livre s'est approché. Alors Pierre prend l'épée, puis il veut défendre son maître, et il fonce. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il coupe une oreille. Il ne sait pas se battre. Certainement qu'il n'a pas, il n'a pas voulu lui couper l'oreille, il a voulu lui prendre le crâne. Il a raté. Tout ce qu'il a fait, c'est de couper une oreille. Mais c'est ce que nous faisons, nous, quand nous voulons défendre le Seigneur. Avec des armes charnelles, Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau, c'est pas de battre. Nous sommes des coupeurs d'oreilles. et nous donnons du travail au Seigneur.
Alors, il doit guérir le pauvre Malchus, puisqu'on sait son nom.
Et puis, quand Jésus est arrêté, il le suit de loin. Nous ne savons pas suivre le Seigneur de près. Puis, quand il voudrait le confesser, alors, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes capables d'avoir honte d'une petite servante. Et c'est là le grand Pierre, après 3 ans d'études avec le Seigneur, 3 ans d'école biblique, il renie le Seigneur avec imprécation, disant « Je ne connais pas cet homme qui lui a lavé les pieds quelques heures avant. » C'est quelque chose de terrible. Voilà notre cœur. Est-ce que vous l'avez déjà vu, votre cœur? Voilà ce dont nous sommes capables. Et si nous ne savons pas cela, nous sommes en danger. Et il faut que nous apprenions à nous connaître. Pierre avait dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus ne l'a pas dit, c'est pas vrai, c'était vrai, il avait tout quitté pour le suivre. Il avait même donné sa part. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas fait, il ne s'était pas quitté. Et quand on ne s'est pas quitté soi-même, on est en danger. Quel est votre plus grand ennemi? C'est vous-même. Il ne faut pas le chercher en dehors de vous. Votre ennemi, celui qui vous piège, il est en dedans. Alors c'est là que nous devons être sur nos gardes. Eh bien, mes amis, Pierre a renié, mais Jésus l'a entendu. Le coq a chanté, Pierre a été réveillé, puis Jésus l'a regardé. Pas une parole, il l'a regardé. Et ce second regard, ah, il l'avait eu le premier regard, hein, quand il l'a rencontré après avoir suivi André. Il a dit, tu es Simon, le fils de Jonas, mais tu seras Céphas. Au reniement, il n'est pas encore Céphas, hein, il n'est pas un rocher, il le deviendra. Et c'est quelque chose de fantastique. Le Seigneur l'a regardé, et il est rentré en lui-même, et là il a pleuré. Il a pleuré sur lui-même, il s'est humilié. Il a pleuré sur lui-même. Et 3 jours après, quand on vient lui dire que Jésus est ressuscité, qu'on n'a pas trouvé le tombeau, on n'a pas trouvé son corps dans le tombeau, il court avec Jean au sépulcre. Mais ce n'est pas lui qui arrive le premier. Jean est plus jeune, il arrive le premier. Mais Pierre regarde, il entre dans le sépulcre. Il va jusqu'au sépulcre. Puis, il retourne chez lui. Mais il a vu Jésus ressuscité. Et alors, je termine par ce moment où il a eu le tête-à-tête avec le Seigneur. Un premier jour de la semaine, sur les bords du lac, où il a toujours travaillé. Il a repris son travail après que Jésus est ressuscité. Et ils sont en train de pêcher. Et ils ont travaillé toute la nuit. Il est avec 6 autres disciples. Ils sont 7. Ils n'ont rien pris. Puis tout à coup, le matin, ils voient quelqu'un sur le rivage. Et Jean, qui a un discernement extraordinaire, Jean, qui est très spirituel, le disciple que Jésus aimait, il dit, mais c'est le Seigneur. Alors que fait Pierre? Il se jette à l'eau, je ne vais pas donner les détails, vous connaissez, et il retrouve le Seigneur. Et c'est l'occasion de cet entretien admirable. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci, hein, puisqu'il avait dit quand même, tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai plus. Alors, Simon dit, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Et Dieu l'établit comme berger de ses brebis. Le Seigneur l'établit comme le berger de ses agneaux. Lui qui avait renié. Eh bien voilà, celui qui a écrit cet épître, on vient de revoir un peu quelle a été sa vie. C'est lui qui ouvrira la porte du royaume des cieux aux Juifs le jour de la Pentecôte. C'est lui qui sera employé pour les Samaritains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est lui qui sera employé pour annoncer l'Évangile.
chez Corneille, chez les païens. Et c'est lui qui a écrit cette lettre si merveilleuse qui va nous occuper à partir de demain. J'ai voulu simplement vous rappeler un peu qui était l'auteur de cette lettre. Maintenant, mes amis, nous allons vous dire pour ceux qui ne...